Chapitre 17. Je m'attendais tellement à ce que le retour des autres s'accompagnât d'une demande d'explication, que je ressentis un trouble nouveau en ne rencontrant chez eux que discrétion et mutisme au sujet de mon absence. Au lieu de m'accabler gaiement et de me câliner, ils ne firent aucune allusion à ma désertion, et, pour le moment, je n'eus plus, m'apercevant qu'elle aussi ne disait rien, qu'à me livrer à l'étude du visage de Mrs. Grouse. Le résultat de cette étude m'apporta la conviction que d'une façon ou d'une autre, il l'avait persuadé de garder le silence, silence que j'étais bien décidé à rompre dès notre premier entretien privé. Cette occasion se présenta avant l'heure du thé. Je m'arrangeai pour la saisir 5 minutes dans la pièce qui lui était réservée, où, dans le crépuscule et l'odeur du pain chaud, mais tout bien en ordre autour d'elle, je la trouvais assise devant le feu, paisible, quoique mélancolique. Et c'est ainsi que je la vois le mieux. Assise toute droite sur sa chaise, regardant la flamme qui éclaire la pièce à demi obscure et bien cirée, une bonne grosse image bien propre de choses rangées, d'armoires fermées à clef, de repos inéluctable et obligatoire. Oui, ils m'ont demandé de ne rien dire, et pour leur faire plaisir, au moment où ils étaient là naturellement, j'ai promis. Mais que vous est-il arrivé ? Je ne pouvais faire avec vous que la promenade, dis-je. Il me fallait revenir pour recevoir une amie. Elle s'étonna. Une amie, vous ? Mais oui, j'en ai une paire. Et je me mis à rire. Mais les enfants vous ont-ils donné une raison ? Pour ne pas faire d'allusion à votre absence, oui. Ils m'ont dit que vous le préfériez. Le préférez-vous ? L'expression de mon visage l'avait soudainement inquiété. Non, je le regrette. J'ajoutai un moment après. « Vous ont-ils dit pourquoi je le préférais ?»« Non, Master Miles dit seulement, il ne faut faire que ce qui lui plaît. »« Je voudrais vraiment qu'il se conformât à ce conseil. »« Et Flora, que dit-elle ?»« Miss Flora, elle est trop gentille. »« Elle dit seulement, bien sûr, bien sûr. »« Et moi aussi. » Je réfléchis un moment. « Vous aussi, vous avez été trop gentille. »« Je crois vous entendre tous les trois. » Enfin, tout est dit maintenant, entre Miles et moi. Tout ? Quel ébahissement chez ma compagne. Tout. Mais peu importe. Je sais ce que j'ai à faire. Ma chère, continuai-je, je suis rentré à la maison pour causer avec Miss Jessel. J'avais pris l'habitude de ne pas introduire ce nom dans la conversation sans avoir d'abord Mrs. Grouse bien en main. De sorte que maintenant, elle cligna bravement des yeux, au signal terrifiant donné par mes paroles, mais je pus la maintenir dans un état relativement calme. Causer ? Voulez-vous dire qu'elle a parlé ? Cela revient au même. À mon retour, je l'ai trouvée dans la salle d'études. Et qu'a-t-elle dit ? J'entends encore la brave femme, l'accent de sa stupeur candide. Qu'elle souffre les tourments ! À ce trait, elle reconstitua tout le tableau et blêmit. « Voulez-vous dire, murmura-t-elle, les tourments des âmes perdues ?»« Des âmes perdues, damnées !»« Et c'est pour les lui faire partager, oui, c'est pour cela !» À mon tour, d'horreur, la voix me manqua. Ma compagne, douée de moins d'imagination, me soutint. « Pour les lui faire partager ?»« Qu'elle veut Flora ?» À ces mots, Mrs. Grouse m'aurait échappé, si je ne m'y fusse attendu. Mais je la maintins sur place, lui prouvant ma prévision. Ainsi que je vous l'ai dit, cela importe peu. Parce que vous avez pris votre parti, lequel ? Je suis prête à tout. Qu'appelez-vous tout ? Mais faire venir ici leur oncle ? Ah, mademoiselle, faites-le par pitié, s'exclama mon ami. Je le ferai, oui, je le ferai. C'est mon unique branche de salut. Je vous ai déclaré tout à l'heure, tout est dit entre Miles et moi. Eh bien, après la conversation que nous avons eue tous deux, si Miles croit que j'ai peur de faire venir son oncle, et s'il se fait des idées sur ce qu'il gagne à cela, il verra qu'il se trompe. Oui, oui, son oncle entendra de ma bouche ici même, devant le petit, si c'est nécessaire, que s'il y a un reproche à m'adresser pour ne m'être pas préoccupé de cette question du nouvelle école, oui, mademoiselle, et alors ? Insista ma compagne. Eh bien, c'est à cause de cette horrible raison. Il y en avait tant, maintenant, de ces horribles raisons, que ma compagne était excusable de demeurer dans le vague.
Mais laquelle ?
Eh bien, cette lettre de son ancien collège. Vous la montrerez à monsieur ?
J'aurais dû le faire sur le champ.
Oh non, dit Mrs. Gross avec décision. Je lui exposerai, continuai-je, inexorable, qu'il m'est impossible de m'occuper de cette question quand il s'agit d'un enfant renvoyé.
Pour des motifs dont nous ne doutons pas, déclara Mrs. Gross.
Pour mauvaise conduite. Car autrement, pour quel motif? Puisqu'il est tellement remarquable, ravissant et parfait. Est-il stupide? A-t-il de mauvaises manières? Est-il infirme? A-t-il mauvais caractère? Il est délicieux. Donc, ce ne peut être que cela. Et cela éclaircit tout. Après tout, c'est la faute de leur oncle. S'il jugeait bon de laisser ici de tels gens.
À la vérité, il ne les connaissait pas le moins du monde.
La faute est la mienne.
Elle était devenue très pâle.
Vous n'aurez pas à en souffrir, répondis-je.
Et les enfants non plus, répliqua-t-elle solennellement.
Je gardai le silence. Nous nous regardâmes, je repris. Alors, que faut-il lui dire?
Vous n'aurez besoin de rien lui dire. Ce sera moi qui parlerai.
Je pesai à part moi la valeur de cette réponse.
Vous voulez dire que vous lui écrirez?
Puis, me rappelant son ignorance, je rattrapai ma phrase.
Comment communiquez-vous?
Je m'adresse au régisseur, et il écrit.
Aimerez-vous beaucoup lui faire écrire notre histoire?
Il y avait dans ma question plus de sarcasme que je n'avais voulu en mettre. Le moment d'après, elle éclatait en sanglots inconséquents. Ses yeux étaient encore pleins de larmes lorsqu'elle me dit « Ah, mademoiselle, écrivez, vous !»«
Eh bien, ce soir, » répondis-je enfin.
Là-dessus, nous nous séparâmes.
Chapitre 18. Dans la soirée, j'osais commencer ma lettre. Le temps avait tourné, un grand vent soufflait, et sous la lampe, dans ma chambre, Flora paisiblement endormie près de moi, je restais longtemps assise devant ma page blanche, écoutant le clapotis de la pluie et les gémissements du vent. Finalement, je sortis, un bougeoir à la main. Je traversai le corridor et écoutai une minute à la porte de Miles. Ce que mon incessante observation me poussait à chercher d'entendre était un signe quelconque qui me prouva qu'il était encore éveillé, et tout à coup, il en survint un, mais nullement sous la forme que j'attendais. Sa voix argentine chantait « Dites donc, vous là-bas, entrez, s'il vous plaît !» Quelle gaieté en plein drame! J'entrai avec ma lumière et le trouvai au lit, complètement éveillé, néanmoins parfaitement à son aise. « Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive ?» me demanda-t-il avec cette grâce familière qui me fit soudainement penser que Mrs. Gross aurait peine à voir là une preuve que tout eût été dit entre nous. J'étais debout devant lui, ma bougie à la main. « Comment avez-vous su que j'étais là ?»«
Mais je vous ai entendu, naturellement. Vous figurez-vous que vous ne faites pas de bruit ?»
C'était comme un escadron qui passait. Et il se mit à rire, si délicieusement.
« Alors, vous ne dormiez pas ?»«
Guère. Je reste éveillé, et je pense. » J'avais posé exprès mon bougeoir un peu plus loin, puis, comme il me tendait la main, sa pauvre petite patte chérie, je m'assis sur le bord du lit. « À quoi, lui dis-je, pensez-vous ?
Et à qui au monde, ma chère, si ce n'est à vous ?
Mais la fierté que me cause votre appréciation ne demande pas cela du tout. J'aimerais tellement mieux vous savoir endormi. »
Eh bien, je pense aussi, vous savez, à notre drôle d'affaire.
Je remarquai la fraîcheur de sa petite main énergique. À quelle drôle d'affaire, Miles?
Mais la façon dont vous m'élevez, et tout le reste?
Le souffle faillit me manquer, et cependant la tremblotante lueur de la bougie me le montrait souriant au creux de son oreiller.
Que voulez-vous dire par tout le reste?
Oh, vous savez, vous savez. Pendant une minute, je ne pus rien dire, bien que je sentisse, tandis que je tenais sa main et que nos yeux se rencontraient, que mon silence avait tout l'air d'admettre la vérité de ce qu'il venait de dire, et que rien au monde, dans le monde des réalités, n'était peut-être à cette heure si fabuleux que nos relations actuelles. « Mais certainement vous retournerez au collège, dis-je, si c'est cela qui vous tourmente. Mais pas l'ancien, il faudra en trouver un autre, un meilleur. » Comment pouvais-je deviner qu'elle vous tormentait, cette question, puisque jamais vous ne me l'avez dit? Vous ne m'en avez jamais parlé. Son clair visage attentif, encadré de blancheur immaculée, le rendait, à ce moment, aussi pitoyable qu'un pensif petit malade d'hôpital d'enfants. Et quand cette similitude me vint à l'esprit, je pensais que je donnerais volontiers tout ce que je possédais au monde pour être, pour de bon, l'infirmière ou la sœur de charité qui aiderait à le guérir. Allons, peut-être arriverai-je tout de même à quelque chose. Savez-vous bien que vous ne m'avez jamais dit un mot de votre école? J'entends l'ancienne. Que jamais, à aucun propos, vous ne m'en avez parlé? Il sembla s'en étonner rêveusement, et continua de garder son charmant sourire. Évidemment, il voulait gagner du temps. Il attendait, il espérait d'être guidé, entraîné. N'en ai-je jamais parlé, vraiment? Non, ce n'était pas à moi de l'aider, maintenant. C'était à l'autre. Quelque chose dans son ton et l'expression de son visage, tandis que je l'écoutais, m'avait percé le cœur d'une souffrance nouvelle. Indiciblement touchant était le spectacle de son petit cerveau tourmenté et la mise en œuvre de tous ses petits moyens pour jouer, sous la contrainte de l'envoûtement qui pesait sur lui, un rôle d'innocence et de logique. Mais non, jamais, à partir du moment où vous êtes arrivé, jamais vous n'avez prononcé le nom d'un maître, d'un camarade, jamais raconté la moindre chose qui vous serait arrivée au collège. Jamais, mon petit Miles, non, jamais vous ne m'avez donné la moindre indication sur rien de ce qui a pu vous y arriver. Vous pouvez donc vous imaginer mon ignorance à ce sujet. Avant votre confidence de ce matin, je ne vous ai jamais entendu faire la moindre allusion à aucun événement de votre existence précédant votre arrivée ici. Vous sembliez accepter si parfaitement le temps présent. C'était extraordinaire comme ma conviction absolue de sa secrète précocité le rendait, à mes yeux, aussi apte qu'une grande personne à me comprendre, bien qu'une ombre légère, répandue sur son visage, révélât son trouble intérieur. Cette secrète précocité, ou quoi que ce fût que j'appelais ce nom, et qui n'était à proprement parler que son empoisonnement par une influence que je n'osais nommer qu'à demi, m'obligeait à le traiter comme un égal, et un égal intelligent. « Je pensais que vous préfériez que les choses en restassent là, » continuai-je. Il me sembla le voir rougir, très légèrement. En tout cas, ainsi qu'un convalescent fatigué, il secoua languissamment la tête. « mais non, j'ai envie de m'en aller. »« Vous en avez assez de Bly ?»« Oh non, j'aime Bly. » »« Alors, oh, vous savez bien, vous, ce qu'il faut à un garçon. » Je sentis que je ne le savais pas si bien que Miles, et me réfugiai provisoirement à l'abri de cette question. « Vous désirez aller chez votre oncle ?» À ces mots, il remua de nouveau sa tête sur l'oreiller, son doux visage toujours ironique. « Ah, vous ne vous en tirerez pas comme ça !» Je gardai le silence, et ce fut alors moi, je crois, qui changeai de couleur. « Mon chéri, je n'ai pas envie de m'en tirer. Vous ne le pouvez pas, même si vous en avez envie. » Vous ne le pouvez pas, vous ne le pouvez pas. Ah, ces grands yeux rêveurs dans ce petit corps allongé. Il faut que mon oncle vienne et que vous régliez tout avec lui. Si nous faisons cela, répliquai-je avec une certaine audace, soyez sûr qu'on vous éloignera tout à fait d'ici. Eh bien, ne comprenez-vous pas que c'est à quoi je travaille, exactement? Vous serez obligé de lui dire la façon dont vous avez tout lâché. Vous en aurez à lui dire. Son accent de triomphe, en prononçant ces paroles, était tel qu'il me poussa à lui en faire dire davantage. « Et vous, Miles, combien n'en aurez-vous pas à lui raconter? Il aura certaines choses à vous demander. » Ceci le fit réfléchir. « Bien probablement, mais quelles choses? Les choses que vous ne m'avez jamais dites, afin qu'il sache ce qu'il devra faire de vous. » « Il ne peut pas vous renvoyer là où... »« Je n'ai pas envie d'y retourner, » interrompit-il. « Je veux voir du nouveau. » Il parlait avec une sérénité parfaite, avec une gaieté sincère et inattaquable. Et cela, pour moi, évoqua de la façon la plus poignante la tragédie enfantine, hors nature, que serait son retour probable à la maison, après 3 mois d'absence, y rapportant toute sa bravade et encore plus de déshonneur. Débordé, accablé, je sentais maintenant que je ne pourrais pas le supporter, et je ne pus me contenir. Je me jetai sur lui, et avec toute la tendresse d'une immense pitié, je l'enlaçai. Mon cher petit Miles !» Mon visage touchait le sien, et il me laissait l'embrasser, prenant la chose tout simplement avec une bonne humeur indulgente. « Et alors, ma vieille ?»« N'y a-t-il rien au monde, rien que vous n'ayez envie de me dire ?» Il se détourna un peu vers le mur, et levant sa main pour la regarder, comme l'on voit faire aux enfants malades. « je vous l'ai dit ce matin. » Comme je souffrais pour lui. « Que tout ce que vous désirez, c'est que je ne me tracasse pas ?» Il me regarda comme quelqu'un qui se voit enfin compris. Puis, le plus doucement du monde, « Que vous me laissiez tranquille, » dit-il. Il y mettait jusqu'à une étrange petite dignité, quelque chose qui me contraignit à me lever, et cependant, lorsque je fus debout, me retint encore près de lui. Dieu sait que je ne voulais pas le persécuter, mais je sentais que lui tourner le dos, après sa petite phrase, c'était l'abandonner, ou plus exactement, le perdre. « Je viens de commencer une lettre à votre oncle, dis-je. Eh bien, finissez-la maintenant. » J'attendis une minute. Qu'était-il arrivé avant ? Il leva les yeux sur moi. « Avant quoi ? Avant votre retour ici, et avant votre départ aussi. » Il garda quelque temps de silence, mais ne me quitta pas des yeux. « Ce qui était arrivé ? » Elle m'émut à un tel point, l'intonation de ces mots, où il me sembla pour la première fois reconnaître la faible, la mince palpitation d'une conscience renaissante, elle m'émut à un tel point que je tombais à genoux près du lit, jouant ma dernière chance de le reprendre jamais. « cher petit Miles, si vous saviez combien je désire vous aider. Mais cela, cela seulement. Et j'aimerais mieux mourir que vous faire de la peine, ou un tort, j'aimerais mieux mourir que toucher un cheveu de votre tête sans votre aveu. Cher petit Miles, oui, je m'avançai jusque-là, dussent les bornes être dépassées, ce que je veux, c'est que vous m'aidiez à vous sauver. Mais, l'instant d'après, je savais que j'avais été trop loin. Je reçus instantanément une réponse à mon appel, mais elle vint sous la forme d'un souffle formidable, d'une bouffée d'air glacé, et d'une secousse de toute la chambre, comme si, cédant au vent sauvage, la fenêtre s'y fût abattue. Le petit jeta un grand cri aigu, qui, perdu dans ce fracas, pouvait passer indistinctement, quoique je fusse bien près de lui, pour une exclamation soit de jubilation, soit de terreur. Je sautai sur mes pieds et me trouvai dans l'obscurité. Nous demeurâmes ainsi un moment, tandis que je jetais les yeux, tout égaré, autour de moi. Je vis alors que les rideaux étaient immobiles et la fenêtre fermée. « Mais la bougie est éteinte, » m'écriai-je. « C'est moi qui l'ai soufflé, ma chère, » dit Miles. Chapitre 19. Le lendemain, nos leçons terminées, Mrs. Cross trouva un moment pour venir me demander doucement « Avez-vous écrit, mademoiselle ?»« Oui, j'ai écrit. » Mais je n'ajoutai pas, pour le moment, que ma lettre, adressée et cachetée, était encore dans ma poche. J'avais du temps devant moi avant que le messager vînt prendre le courrier. Du reste, jamais mes élèves n'avaient montré plus de sagesse, plus de zèle que ce matin-là. C'était exactement comme si tous deux avaient à cœur d'effacer la trace d'une querelle récente. Ils accomplissaient des tours de force d'arithmétique, planant bien au-dessus de mon humble sphère, et perpétraient, d'humeur plus joyeuse que jamais, leurs farces historiques et géographiques. Bien entendu, c'était particulièrement Miles qui semblait vouloir me montrer combien il pouvait facilement me dépasser. Dans mes souvenirs, cet enfant vit vraiment dans une atmosphère de beauté et de détresse qu'aucune parole ne saurait traduire. Une distinction qui n'appartenait qu'à lui se révélait à chacune de ses initiatives. Jamais petite créature humaine, paraissant toute franchise et liberté aux yeux mal informés, ne fut au fond un plus extraordinaire et plus ingénieux homme du monde. Il me fallait perpétuellement me tenir en garde contre l'émerveillement de le contempler où m'entraînait ma vision initiée. Il me fallait suspendre le regard distrait et le soupir découragé avec lesquels, constamment et successivement, j'attaquais et j'abandonnais l'énigme de savoir ce qu'avait bien pu faire un gentilhomme aussi accompli pour mériter une telle punition. Je pouvais bien me dire que par la vertu du sombre prodige dont je possédais le secret, l'imagination du mal tout entier lui avait été révélée. La justice néanmoins souffrait, au-dedans de moi, de n'avoir pas la preuve qu'un acte positif n'eût pas été commis. En tout cas, jamais ne s'était-il montré aussi gentilhomme que le soir affreux où, après notre dîner tôt fini, il s'approcha de moi et me demanda si j'aimerais qu'il me fît un peu de musique. David, jouant de la harpe pour Saül, n'avait pas montré un sens plus juste de l'occasion. C'était réellement une manifestation charmante de tact, de magnanimité, une équivalence exacte du discours qu'il aurait pu tenir. Les vrais chevaliers dont nous aimons à lire l'histoire ne poussent jamais trop loin leur avantage. Je sais ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que pour votre paix et pour n'être pas tracassé, vous cesserez de me tourmenter et de m'espionner. Vous ne me garderez plus toujours près de vous, vous me laisserez aller et venir. Aussi je viens, comme vous voyez, mais je ne m'en vais pas. Il viendra un temps pour cela. Je prends vraiment le plus grand plaisir à votre société, et je voulais seulement vous montrer que je luttais pour le principe. On peut imaginer si je résistais à cet appel, si je manquais de l'accompagner, sa main dans la mienne, à la salle d'études. Il s'assit au vieux piano et joua comme jamais il n'avait joué. Si quelques personnes pensent qu'il aurait mieux valu qu'il allât lancer de bons coups de pied au ballon de football, je ne puis dire qu'une chose, c'est que je suis entièrement de leur avis. Car au bout d'un certain temps, dont je ne puis évaluer la durée, ayant sous sa subtile influence perdu toute notion de mesure, je me secouais tout à coup avec l'étrange sensation de m'être littéralement endormi à mon poste. Ceci se passait après le dîner de midi, auprès du feu de la salle d'études, et cependant je n'avais nullement dormi, au vrai sens du mot. J'avais seulement fait pire, je m'étais oublié. Où était Flora pendant tout ce temps? Lorsque je posai la question à Miles, il continua de jouer pendant une minute avant de me répondre, puis ne put que me dire « Mais, ma chère, comment le saurais-je ?» s'abandonnant ensuite à un rire tout heureux qu'immédiatement après il prolongeait en une chanson fantaisiste et incohérente. J'allai droit à ma chambre, sa sœur n'y était pas. Avant de descendre, j'allai voir dans plusieurs autres. Puisqu'elle n'était pas là, elle devait être avec Mrs. Groves, à la recherche de laquelle je m'amis. Je la trouvai à la même place que la veille, mais elle ne présenta à mon enquête qu'une ignorance totale et stupéfaite. Elle supposait que j'avais emmené les deux enfants après le repas, et en cela, elle avait absolument raison, car c'était bien la première fois que je permettais à la petite fille de s'éloigner de ma vue sans une raison particulière. Elle pouvait avoir été retrouver les femmes de chambre. La première chose à faire était donc de se mettre à sa recherche, sans paraître inquiète. Ceci fut rapidement convenu entre nous. Mais quand, 10 minutes plus tard, selon ce que nous nous étions promis, nous nous retrouvâmes dans le hall, nous ne pûmes que nous rapporter l'une à l'autre que nous n'avions trouvé aucune trace d'elle. Là, pendant une minute, et hors de toute observation, nous confrontâmes silencieusement nos muettes alarmes, et mon ami me rendit alors, avec un intérêt considérable, la somme d'inquiétude dont la première je l'avais comblée. « Elle doit être là-haut, » dit-elle au bout d'un certain temps, « dans une chambre où vous n'avez pas regardé. » « Non, elle est loin. » Maintenant, j'avais compris. Elle est sortie. Mrs. Groves n'en revenait pas. Sans son chapeau? Le regard que je lui jetais était plein de sous-entendus. Cette femme n'est-elle pas toujours tête nue? Elle est... avec elle? Elle est avec elle, déclarai-je. Il faut que nous les trouvions. Je lui avais pris le bras, mais devant cet aspect de la question, elle négligea de répondre à ma pression. Mais au contraire, debout et immobile, son malaise la possédait tout entière. « Et où est Master Miles ?»« Oh, lui, il est avec Quint, dans la salle d'études, probablement. »«
Bon Dieu, mademoiselle !»
Je me rendais compte que jamais encore ma vision, et par conséquent, je suppose, ma voix, n'avait atteint un tel degré d'assurance. « La farce a été bien jouée, continuai-je. Ils ont bien exécuté leur plan. Il a trouvé le plus divin petit moyen de me faire tenir tranquille pendant qu'elle se sauvait. » « Divin ?» répéta en écho Mrs. Cross, abasourdie. « Infernal, si vous voulez, répliquai-je, presque gaiement. Il s'est sauvé aussi bien qu'elle. Mais venez. » Elle jeta un regard désespéré vers l'étage supérieur. « Vous le laissez si longtemps avec Quint ?»« Oui, cela m'est égal maintenant. » Elle finissait toujours, à de pareils moments, par me prendre la main, et de cette façon elle put, encore cette fois, me retenir près d'elle. Muette d'étonnement devant ma subite résignation, ce ne fut qu'un moment plus tard qu'elle put, d'une voix ardente, me demander « Parce que vous lui avez écrit ?» Pour toute réponse, je tâtai rapidement ma poche, en tirai ma lettre, la lui montrai, puis, me libérant de son étreinte, j'allai la déposer sur la grande table du hall. « Luc la prendra, » dis-je en revenant. J'allai à la porte d'entrée, je l'ouvris. J'avais déjà le pied sur la première marche. Ma compagne demeurait en arrière. L'orage de la nuit, les premières heures de la matinée étaient passées, mais l'après-midi était humide et sombre. J'avais atteint l'avenue qu'elle était encore sur le seuil. « Vous sortez sans rien mettre sur vous ? » « Qu'est-ce que cela me fait du moment que la petite n'a rien non plus ? Je ne peux pas perdre de temps à m'habiller, m'écriai-je. Et si vous voulez le faire, je vous laisse là. Vous pourrez vous occuper là-haut. « Avec eux ?» Oh, là-dessus, la pauvre femme courut bien vite me rejoindre. Chapitre 20. Nous allâmes droit au lac, ainsi qu'on disait à Bly, et à juste titre peut-être, bien qu'il se puisse que cette nappe d'eau fût, en somme, moins remarquable que mes yeux ignorants le supposaient. Je n'avais que peu d'expérience des nappes d'eau, et l'étang de Bly, en tout cas, m'avait toujours frappé par son étendue et l'agitation de ses eaux, à chacune des occasions où j'avais consenti, sous la protection de mes élèves, à y naviguer dans le vieux bateau à fond plat, attaché au bord pour notre usage. L'endroit habituel où nous nous embarquions était à un bon demi-mille de la maison, mais ma conviction intime me disait que Flora, quelle que fût la direction qu'elle avait prise, était certainement loin. Ce n'était pas pour une aventure de rien qu'elle avait pris la clé des champs, et depuis le jour où j'en avais couru une fort considérable avec elle, près de l'étang, j'avais remarqué, pendant nos promenades, le côté où la portait son inclination. C'était la raison pour laquelle je dirigeais les pas de Mrs. Cross dans une direction aussi précise, direction à laquelle, quand elle s'en aperçut, elle opposa une résistance qui me prouva qu'une fois de plus, elle ne comprenait pas où je voulais en venir. « Vous allez vers l'étang, mademoiselle ? Vous croyez qu'elle est dedans ?» Cela se pourrait, bien que la profondeur, je crois, ne soit bien grande nulle part. Mais ce qui me paraît le plus vraisemblable, c'est qu'elle soit à l'endroit d'où, l'autre jour, nous avons vu ensemble ce que je vous ai raconté. Quand elle prétendit ne pas voir. Avec quelle étonnante maîtrise d'elle-même. J'ai toujours été convaincu qu'elle désirait y retourner seule, et son frère a arrangé les choses pour elle. Mrs. Cross restait toujours là où elle s'était arrêtée. « Vous croyez que vraiment, ils en parlent ?» À ceci, je pouvais répondre avec assurance. « Ils disent des choses qui, si nous pouvions les entendre, nous feraient frémir, tout simplement. »« Et si Flora est là ?»«
Oui. »«
Alors, Miss Jessel y est ?»«
Sans aucun doute, vous verrez. »«
Oh, merci beaucoup !» s'écria mon ami, tellement enraciné au sol, renonçant à l'ébranler, je continuai ma route sans l'attendre. Mais lorsque j'atteignis l'étang, elle était là, tout près de moi. Et je compris que, malgré l'appréhension qui la possédait du danger que je pouvais courir, le risque auquel elle s'exposait en s'attachant à mes pas lui semblait encore un moindre danger. Elle exhala un soupir de soulagement quand, à la fin, ayant embrassé du regard la plus grande partie de l'étang, nous n'aperçûmes nulle part l'enfant que nous cherchions. Aucune trace de Flora sur la berge la plus proche, là où elle m'avait fourni l'occasion de ma plus saisissante observation. Pas davantage à l'autre bord, où, sauf sur un espace d'une vingtaine de mètres, d'épaisses broussailles descendaient jusque dans l'eau. Cette extrémité du lac, de forme oblongue, était si étroite par rapport à sa longueur que, les deux bouts hors de vue, on aurait pu croire qu'il y avait là une petite rivière. Nous regardâmes cet espace vide, et je sentis qu'une suggestion me venait des yeux de mon ami. Je compris, mais je secouai la tête. « Non, non, attendez, elle a pris le bateau. » Ma compagne jeta un regard stupéfait à la place, vide en effet, où d'habitude la vieille barque était attachée. Puis elle le reporta sur le lac. Où serait-il donc? La preuve la plus manifeste qu'elle l'a pris est que nous ne le voyons pas. Elle l'a pris pour traverser, et puis a réussi à le cacher. Cet enfant? À elle seule? Elle n'est pas seule, et à de tels instants, elle n'est pas une enfant. Elle est une vieille, très vieille femme. J'inspectais toute la berge alors visible, tandis que Mrs. Crowe faisait de nouveau un de ses habituels plongeons obéissants dans l'élément bizarre que je lui présentais. Je suggérais que le bateau avait pu trouver refuge dans un coin caché de l'étang, une dentelure masquée du côté où nous étions par la projection de la berge et un bouquet d'arbres qui s'élevait tout près de l'eau. Mais si le bateau est là, où peut-elle être, pour l'amour du ciel? Me demanda anxieusement ma collègue. C'est justement ce que nous avons à découvrir. Et je me remis en marche.
Vous allez faire le tour du lac?
Certainement, quelque long que ce puisse être. D'ailleurs, cela ne nous prendra que 10 minutes. Cependant, cela a pu paraître assez loin à la petite pour qu'elle ait préféré ne pas marcher. Elle a traversé tout droit.
La 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 la, s'écria de nouveau mon ami. L'impitoyable chaîne de ma logique lui était trop dure.
Cependant, je continuais à la tirer derrière moi, prisonnière docile, et lorsque nous fûmes à mi-chemin du but, l'entreprise était fatigante, nous ne pouvions marcher droit sur ce terrain inégal, dans un sentier encombré de broussailles, je m'arrêtai pour lui laisser reprendre haleine. Je lui prêtai le support d'un bras reconnaissant, lui répétant qu'elle me serait d'un grand secours. Et ceci nous fit si bien repartir de nouveau, qu'au bout de quelques minutes, nous atteignîmes un point d'où nous découvrîmes le bateau, là même où j'avais supposé qu'il pouvait être. Il avait été mis, avec intention, aussi hors de vue que possible, et était attaché à l'un des pieux d'une palissade qui touchait juste le bord de l'eau, ce qui avait facilité le débarquement. J'appréciais l'effort prodigieux fait par la petite fille en observant la paire de rames, épaisse et courte, qu'elle avait soigneusement relevée. Mais à cette heure, j'avais depuis trop longtemps déjà vécu parmi les prodiges et mon cœur avait battu à de trop chaudes alertes. La palissade avait une porte par laquelle nous passâmes et sitôt après, nous nous trouvâmes en plein champ. Alors, la voilà, laissâmes-nous échapper en même temps. Flora, à peu de distance de nous, se tenait debout sur l'herbe et souriait, comme si son entreprise était maintenant achevée. La première chose qu'elle fit, cependant, fut de se baisser et de cueillir, tout à fait comme si elle n'était venue que pour cela, une grande vilaine tige de fougère fanée. Je compris immédiatement qu'elle sortait du taillis. Elle m'attendit, sans faire elle-même un pas, et je me rendais compte de l'étrange solennité avec laquelle nous approchions d'elle. Elle souriait toujours. Nous la rejoignîmes, mais tout ceci se passa dans un silence devenu franchement tragique. Mrs. Crowe, la première, rompit l'enchantement. Elle se jeta à genoux et, attirant l'enfant, enlaça d'une longue étreinte le tendre petit corps obéissant. Pendant que dura cette convulsion muette, je ne pouvais que l'observer. Ce que je fis d'autant plus intensément que je vis le visage de Flora tourné vers moi, par-dessus l'épaule de notre compagne. Il était devenu sérieux. Son sourire l'avait quitté, et cela rendit plus amère l'angoisse avec laquelle, à ce moment, j'enviais la simplicité d'âme que Mrs. Crowe apportait à leur rapport. Et il ne se passa rien de plus, sinon que Flora laissa tomber sa sotte tige de fougère. Ce qui s'était virtuellement dit entre elle et moi était que toute dissimulation maintenant était inutile. Quand Mrs. Crowe se releva, à la longue, elle garda la main de l'enfant dans la sienne. Je les avais toutes deux devant moi, et la réticence singulière de notre réunion était d'autant plus marquée par le franc regard qu'elle m'adressa. « Je veux être pendu, disait-il, si je parle la première. » Ce fut Flora qui, me considérant de la tête aux pieds avec un étonnement candide, ouvrit le feu. « Où donc sont vos affaires ?»« Là où sont les vôtres, ma chère, répartis-je promptement. » Sa gaieté lui était déjà revenue, et cela lui parut une réponse suffisante. « Et où est Miles ? » continua-t-elle. Il y avait dans cette énergie enfantine quelque chose qui m'acheva. Ces mots sortis de sa bouche furent l'espace d'un éclair, comme l'éclat d'une lame sortie du fourreau. L'ébranlement de cette coupe que, depuis des semaines, ma main maintenait élevée, pleine jusqu'au bord, et que maintenant, avant même que j'eusse parlé, je sentais déborder comme un déluge. Je vous le dirai si vous me dites, je m'entends prononcer ces paroles, et ensuite le chevrotement où elles se brisèrent. Quoi donc ? L'angoisse de Mrs. Crowe eut beau me lancer un fulgurant éclair, c'était trop tard, et j'amenais la chose à une belle allure. Où, mon amour, est Miss Jessel ? Chapitre 21. Tout à fait comme dans le cimetière avec Miles, nous nous trouvions maintenant au pied du mur. Bien que je m'attendisse à l'effet que ne pouvaient manquer de produire les syllabes de ce nom, qui n'avait jamais été prononcé entre nous, la subite expression de rage blessée que revêtit alors le visage de l'enfant fit, pour ainsi dire, ressembler ma brusque interruption du silence à un fracas de vitres brisées. Cela vint s'ajouter au cri que Mrs. Crowe, atterrée par ma violence, jeta comme pour s'interposer entre nous et atténuer le coup que je frappais. C'était celui d'une créature bouleversée, blessée plutôt, et quelques secondes plus tard, à mon tour, je faisais entendre un gémissement sourd. Je saisis ma collègue par le bras. « Elle est là ! Elle est là !» Miss Jessel se tenait debout sur le bord opposé, exactement comme l'autre fois. Chose bizarre, je me rappelle que le premier sentiment que sa vue éveilla en moi fut un frémissement de joie d'avoir enfin obtenu une preuve indéniable. Elle était là. Mes accusations étaient donc justifiées. Elle était là. Je n'étais donc ni cruel ni folle. Elle était là. La pauvre Mrs. Crowe, éperdue d'angoisse, serait convaincue. Et avant tout, je voyais Flora confondue. Aucun moment de cette période monstrueuse de ma vie ne fut peut-être si extraordinaire que celui où je lui adressai positivement, avec la conviction que, tout pâle et insatiable démon qu'elle fût, elle le recevrait et le comprendrait, un message inarticulé de gratitude. Elle se dressait toute droite, sur le lieu même que mon ami et moi venions de quitter, et, sur tout le long parcours de son désir, pas un atome de sa malignité ne manquait son but. Cette première acuité de vision et d'émotion ne dura que quelques secondes, pendant lesquelles je fus frappé par l'expression des yeux clignotants et stupéfaits de Mrs. Crowe. Voyait-elle enfin, elle aussi, le prodige que je lui désignais obstinément du doigt ? Je reportai précipitamment mes regards sur l'enfant. La révélation de la manière dont Flora subissait cette épreuve me saisit, à vrai dire, infiniment plus que si je l'eusse trouvée elle aussi tout simplement en proie à une certaine agitation. Je n'allais pas, bien entendu, jusqu'à m'attendre de sa part à un trouble révélateur. Notre poursuite l'avait préparée et mise sur ses gardes. Elle saurait réprimer toute émotion capable de la trahir. Mais je me sentis fort ému au premier symptôme d'une attitude à laquelle je ne m'attendais pas. De la voir sans qu'un muscle remuât dans ce petit visage rose, non pas même feindre de regarder dans la direction du prodige que j'annonçais, mais au lieu de cela, se tourner vers moi avec une expression de gravité calme et sévère, une expression absolument nouvelle et sans précédent, qui semblait lire à travers moi, m'accuser et me juger. C'était là un trait qui, en quelque sorte, transformait la petite fille elle-même en une image de menace et de péril. Son calme m'ébahissait, bien que plus que jamais à ce moment-là, je fusse certaine qu'elle voyait tout, qu'elle savait tout. Alors, poussé par la nécessité immédiate de me défendre, j'en appelai passionnément à son témoignage. « Elle est là, petite malheureuse, là, 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 et vous le savez aussi bien que moi. » J'avais, peu de temps auparavant, dit à Mrs. Cross qu'à ces moments-là, elle n'était plus un enfant, mais une vieille, vieille femme. Et rien ne pouvait confirmer cette déclaration d'une manière plus évidente que la façon avec laquelle, pour toute réponse, elle prenait, sans condescendre à la moindre émotion, une attitude de réprobation de plus en plus manquée, qui, tout à coup, se figea totalement. J'étais alors, s'il m'est possible de rassembler les traits épars de cette scène, plus épouvanté par ce que je puis proprement appeler son jeu que par tout le reste, bien que simultanément, je m'aperçus que j'avais maintenant Mrs. Cross formidablement contre moi. En tout cas, le moment d'après, tout s'effaçait, pour ne me laisser sensible qu'au visage enflammé et à la bruyante protestation scandalisée de ma vieille compagne, où éclatait sa violente désapprobation. « Est-il possible d'avoir une si horrible disposition, mademoiselle ? Mais où voyez-vous la moindre chose ?» Je ne pus que la saisir brusquement, car pendant qu'elle parlait, la hideuse, la vile présence était là, claire comme le jour et indomptable. Cela avait déjà duré une minute, et cela dura tandis que je continuais, tenant ferme ma collègue, la poussant vers elle, la lui présentant, à la lui désigner du doigt. « Vous ne la voyez pas, comme nous, nous la voyons ? Vous dites que non, encore non, maintenant ? Mais c'est aussi éclatant qu'un feu ardent. Mais regardez donc, ô cher, cher ami, regardez seulement !» Elle regardait, comme je regardais moi-même, et avec son profond gémissement qui exprimait la négation, la répulsion, la compassion, avec le mélange de sa pitié pour moi et d'un grand soulagement de son heureux aveuglement, elle me donnait l'impression, dont je fus même alors profondément touché, qu'elle m'aurait soutenu si elle l'avait pu. J'aurais eu grand besoin de ce secours, car au coup fatal que me portait cette preuve que ses yeux étaient scellés sans aucun espoir, se joignait l'impression de l'écroulement de ma propre situation. Je sentais, je voyais la livide Miss Jessel, de sa position inexpugnable, précipiter ma défaite, et plus que tout, la stupéfiante petite attitude de Flora me fit instantanément mesurer ce qui m'attendait désormais. Et voici que Mrs. Cross, violemment et complètement, adoptait cette même attitude, se répandant en un torrent de paroles rassurantes et essoufflées, cependant qu'au fond de moi-même, à travers le sentiment de ma ruine, perçait celui de mon prodigieux triomphe personnel. « Elle n'est pas là, chère petite demoiselle. Personne n'est là. Et vous ne voyez rien, pauvre chérie. Comment la pauvre Miss Jessel pourrait-elle, puisqu'elle est morte et enterrée, la pauvre Miss Jessel ? Nous le savons bien, nous, n'est-ce pas, mon amour ?» Et balbutiante, elle suppliait l'enfant. « Tout ça, c'est une erreur, c'est une blague, des histoires, et nous allons rentrer le plus vite que nous pourrons. » Notre jeune compagne acquiesça à ceci avec son étrange sécheresse toute confite de convenance. Et de nouveau, Mrs. Cross s'étant relevée, je les voyais debout, unis à ce qu'il semblait, contre moi, dans une scandaleuse opposition. Flora continuait à me fixer avec son petit masque froid, dont toute affection avait disparu. Je l'ai déjà dit, littéralement, hideusement figée, elle était devenue commune, presque laide. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je ne vois personne, je ne vois rien. Je n'ai jamais rien vu. Je vous trouve méchante, je ne vous aime plus. Et après cette sortie, qui aurait pu être le fait d'une impertinente et vulgaire petite fille des rues, elle étreignit Mrs. Cross plus fort et enfouit dans ses jupes son horrible petit visage. De cet asile, elle éclata en une lamentation presque furieuse. « Emmenez-moi ! Emmenez-moi ! Oh, emmenez-moi loin d'elle !»« Loin de moi ? » demandai-je, haletante. « Loin de vous ! De vous ! » cria-t-elle. Mrs. Cross elle-même parut déconcertée. Pour moi, il ne me restait plus qu'à renouveler mes communications avec la figure qui, du bord opposé, sans un mouvement, rigidement attentive comme si nos voix lui parvenaient à travers l'intervalle qui nous séparait, assistait à toute cette scène, présence aussi formidable pour présider à ma défaite qu'elle l'était peu pour mon service. La misérable enfant avait parlé exactement comme si elle puisait à une source étrangère chacun de ses petits mots acérés. Aussi, désespéré de tout ce qu'il me fallait subir sans pouvoir répliquer, je me bornais à secouer tristement la tête. Si j'avais jamais douté, mon doute disparaîtrait aujourd'hui. J'ai vécu longtemps avec l'amère vérité, et maintenant elle me presse de toutes parts. Oui, je vous perds. J'ai voulu agir, et vous avez su, sous sa direction, de nouveau j'affrontais au-delà de l'étang l'infernal témoin, employer le moyen facile et parfait de m'en empêcher. J'ai fait de mon mieux, mais je vous perds. Adieu. À Mrs. Krause, j'adressais impérativement et presque hors de moi-même un « partez, partez » auquel elle se soumit avec un air de profonde détresse. Mais, prenant possession de la petite fille, silencieusement, et nettement convaincue, en dépit de sa cécité, que quelque chose d'affreux venait de se passer et que quelque cataclysme nous engloutissait, elle se retira, avec toute la rapidité possible, par le même chemin que nous avions pris pour venir. De ce qui se passa, immédiatement après que je fus seul, je n'ai pas gardé le souvenir. Tout ce que je sais, c'est qu'au bout d'un quart d'heure, peut-être, une sensation d'humidité odorante et de rudesse, qui pénétrait ma douleur d'un frisson glacé, me fit comprendre que j'avais dû me jeter la face contre terre, en m'abandonnant à l'égarement de mon chagrin. J'avais dû rester longtemps prostré, pleurant et gémissant, car lorsque je relevais la tête, le jour avait presque disparu. Je me mis debout, je regardais dans le crépuscule, l'étang grisâtre et ses sombres bords hantés, puis je repris ma triste et pénible course vers la maison. Lorsque j'eus atteint la petite porte pratiquée dans la barrière, je découvris à mon vif étonnement que le bateau n'était plus là, ce qui m'incita à de nouvelles réflexions sur l'extraordinaire présence d'esprit de Flora. Elle passa la nuit, par un tacite, et si l'épithète n'était pas si grotesquement hors de saison, par une heureuse entente avec Mrs. Krause. Je ne vis ni l'une ni l'autre à mon retour, mais d'un autre côté, par une compensation assez ambiguë, je vis Miles abondamment. Sa compagnie me fut octroyée en une telle quantité, je ne puis user d'un autre terme, que je puis presque dire qu'elle prit dans nos rapports une importance jamais encore atteinte. Aucune de mes soirées à Bligh ne devait revêtir l'inquiétante couleur de celle-là. Mais malgré cela, et aussi malgré le profond abîme de consternation qui venait de s'ouvrir sous mes pieds, il y eut dans le reflux, le déclin de ce soir-là, une triste et incroyable douceur. En arrivant à la maison, je ne m'étais même pas inquiété du petit. J'étais allé tout droit à ma chambre, je ne fis que changer de vêtements, mais d'un coup d'œil, je saisis néanmoins maint témoignage matériel de ma rupture avec Flora. Toutes ces petites affaires avaient été enlevées. Un peu plus tard, mon thé me fut apporté par la servante dans la salle d'études auprès du feu. Je ne fis aucune enquête au sujet de mon autre élève, qu'il usa de sa liberté maintenant. Il l'avait conquise. Eh bien, il l'avait conquise, en effet. Et elle lui servit, du moins partiellement, à se présenter vers 8 heures et venir s'asseoir silencieusement auprès de moi. Après que le thé eut été enlevé, j'avais soufflé les bougies et tiré mon fauteuil plus près de la cheminée. J'étais pénétré d'un froid mortel, et il me semblait que je ne me réchaufferais jamais. Il s'arrêta un moment à la porte, comme pour me regarder. J'étais assise auprès du feu, livrée à mes pensées. Comme s'il voulait les partager, il vint à l'autre angle de la cheminée et se posa sur une chaise. Nous demeurâmes là, assis dans une immobilité absolue. Néanmoins, je sentais qu'il désirait être auprès de moi.